Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Lui, j'accueille un ami, un collègue, une référence. Éric, comment ?
Vial Hurtado Alarcón Mas.
Né, quelle année ?
En 1971.
Quel signe ?
Verseau.
Et quelle profession ?
Journaliste reporter.
Allez-y, vie de pirate.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh is, oh is, oh eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte la vie de pirate.
Alors, c'est ni l'homme de télé, ni l'homme de la plume, ni l'homme de l'image. C'est le marin que je veux accueillir aujourd'hui, Éric.
Merci.
Éric Auloncourt.
Merci, Marc, Paul. Alors, de m'accueillir.
Alors, je sais que tu es un passionné de mer et de rivière, mais
oui.
On va commencer. Quelles sont tes bases de navigateur ?
J'ai commencé pas par les fleuves, ni par les rivières, bien qu'elles soient dans tous les villages de France, hein, ces rivières, et qu'elles amènent au voyage. Mais j'ai commencé par la mer, moi. Voilà. Donc, je viens d'une famille de prolétaires, modestes. Et à mon époque, il y avait un truc formidable pour les gens qui étaient sans sous. Il y avait le temps des colonies.
Ah, le temps. Donc tu n'étais pas sur des virées, magnifiques bateaux à moteur, tu devais être sur des bateaux à voile.
Exactement.
Et tu as été optimiste.
Exactement. Je le suis resté d'ailleurs.
Resté optimiste.
Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de voiles, grâce à mes parents qui, chaque année, m'inscrivaient à la voile. À pourvendre, exactement, puisque moi je suis plutôt, malgré ce que je peux laisser entendre, mais je l'ai dit dans mon nom tout à l'heure, c'est important pour moi, mes origines, un homme d'origine du Sud.
Espagne,
ma maman est espagnole, et j'ai toujours une très belle relation avec ce pays, tout en aimant très profondément le mien et la région Alsace. Je pense qu'on peut aimer plusieurs identités en même temps, moi je suis pas, voilà. Et donc effectivement, chaque année, pendant très longtemps, j'ai été faire de la voile à Port-Vendres sur la mer Méditerranée.
Alors, comme tu étais optimiste, tu as dû commencer ton initiation sur des caravelles, pas et comme Christophe Colomb pour découvrir les Amériques, mais pour découvrir la passion du vent.
Exactement, ça a commencé par les caravelles, ensuite ça a continué par l'optimiste, et puis après, on va sur des bateaux un peu plus grands. Et j'ai refait de la voile il n'y a pas très longtemps, en fait. Ça m'a rappelé mes jeunes années, mais là, c'était dans le Finistère, où on m'a prêté un voilier. Et en fait, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas.
Hein. Non, ça ne s'oublie
ça
pas.
Ça ne s'oublie
je
pas.
Sais,
et on a une relation étrange quand on est sur un voilier avec le vent. Cette manière d'aller chercher le vent, justement, de se faire pousser par le vent. C'est bizarre parce que ça ne va pas vite,
non.
Au fond. Mais il y a une sorte de puissance incroyable quand on est sur un petit voilier comme ça,
qui
fait peur.
Ouais, et quand on sent que sur la coque, le défilement commence à avancer, on sait qu'on a attrapé le bon riz.
Exactement.
Et on serre juste la baume pour qu'elle soit au bon instant.
Je vois que j'ai affaire aussi à un amoureux de la mer.
Bah, la mer, la voile, oui, on a tous commencé avec ça. Est-ce que tu as fait une croisière? Est-ce que tu as fait une croisière? Je veux pas une croisière, pas une croisière. Ah, tu sais, quand on fait de la voile, à un moment, on est tenté d'aller faire la Corse, on est tenté d'aller faire les Antibes, de faire ce qu'on appelle un convoyage ou un truc comme ça.
Jamais. Oui, oui, j'ai fait tout ça, et puis je l'ai fait avec des amis. Hein, donc, je me suis pas mal baladé dans les mers. Et puis après, bah, j'ai été plutôt un passager de ces grands bateaux, de ces yachts. J'ai eu la chance de monter aussi sur des yachts, sur les rivières, sur les fleuves.
Alors, voilà. Je reviens un peu sur le bord, parce qu'à bord, toutes les identités tombent, on rentre dans une communauté.
Exact.
Et c'est très difficile, parce qu'on croit que c'est facile, mais c'est très difficile, parce qu'il faut savoir trouver sa place quand on est novice. Parce qu'on est un peu expert, on veut, et là, le capitaine ne fonctionne pas comme on veut d'habitude. Donc là, il y a ce qu'on appelle se mettre à bord du diapason du timonier.
Exactement. Mais moi, j'ai toujours respecté ça. Je me suis toujours très bien intégré dans la communauté des marins. D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu bizarrement une appréhension avec la mer. C'est un endroit qui m'a toujours émerveillé. Parfois, on regarde la mer et la profondeur de la mer. Quelque chose qui fait peur. Hein. Et donc, ça m'a toujours émerveillé. Et en même temps, c'est un lieu qui fait peur. Donc, j'ai toujours bien respecté, effectivement, les consignes qui m'étaient données. Je suis, je pense, un homme courageux, mais pas téméraire. Donc, je ne joue pas sur un voilier ou sur un bateau.
Alors, on va écouter un de tes choix musicaux et qui va te permettre de te réfléchir, car tu vas me parler peut-être d'une expérience à coup de tabac, un truc insolite qui t'est arrivé, pour un peu une anecdote pour illustrer cela. Tu as choisi quoi comme...
Alors, j'ai choisi une chanson de Féloche, qui est un artiste français, une chanson qui s'appelle « Silbo ». Il avait été récompensé par une victoire de la musique. Cette chanson raconte une de mes îles préférées, enfin un archipel, c'est les îles Canaries, où ma maman y est, où j'ai une partie de ma famille qui y vit. J'ai amené toutes mes petites copines depuis que je suis petit.
Okay.
Donc ma tante, elle les connaît tous, toutes plutôt. et pour moi, donc les Canaries, c'est les îles, c'est mes amours, c'est là où j'ai envie de finir mes jours. Mon cœur bat pour ces îles, vraiment. La mer Azur est violente. Les volcans, récemment sur l'île de la Palma, voilà, ouais. Les volcans, moi je les vois. Et le silbo, c'est le chant des paysans de ces îles, notamment sur la Gomera, qui est une de ces petites îles des Canaries. Et les gens ne chantent pas pour parler ou ne parlent pas, ils sifflent à travers les montagnes. Ça s'appelle le silbo.
On écoute le silbo.
Adieu. marqué. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet.
Donc c'est merveilleux ça, je ne savais pas ça. Alors bon, les îles Canaries, il doit y avoir, toi je sais que tu es un gourmet, oui. Surtout un gourmand. Mm-hmm. Et quel est le poulpe ? Qu'est-ce que tu manges aux Canaries qui est le plat ?
Il n'y a pas énormément de viande aux Canaries, c'est, donc, c'est beaucoup de volaille, pollo, le poulet comme ils disent,
ouais,
le pollo. Il y a beaucoup de poulet, il y a peu de viande, il y a un fromage assez sec qui n'est pas forcément bon.
De chèvre, qui doit être voilà, fait, c'est de ça. Feu comme les sardines. Voilà.
Exactement.
Où on sent un peu l'ammoniaque.
C'est une terre aride.
Voilà, c'est ça.
Donc, il n'y a pas de grande spécialité. Le poisson est compliqué à pêcher, parce que la mer est extrêmement dure. On est en plein milieu de l'océan Atlantique.
Hein,
surtout l'île où je réside quand j'y vais, qui est l'une des plus petites îles. Il y a les baleines qui passent. C'est même tout simplement pour un baigneur difficile de s'y baigner. Les courants sont extrêmement forts. Mais qu'est-ce que la mer est belle. Une spécialité, eh ben, il le dit dans la chanson, c'est le moro picante, el moro verde, qui est une sorte de mélange, une petite sauce qui accompagne tout, en fait, qui est très piquante et qu'on accompagne avec tout. Ça fait tout passer, en fait. Et moi, j'aime beaucoup aller là-bas, voilà, en mangeant le moro picante.
Alors, as-tu eu un coup de tabac, une expérience, je dirais, qui t'a laissé des souvenirs avec l'eau? Je dirais un peu d'angoisse.
J'en ai plein, en fait. Je pensais à ta question, Marc-Paul. En fait, j'ai failli me noyer une fois, vraiment. J'ai eu très, très peur. Pas sur le moment, c'est le soir quand je suis rentré. Je veux raconter cette anecdote. Donc, je suis tombé à la mer sur le voilier plein de fois, hein, surtout sur les optimistes, ça va vite. Hein. Une fois, je pars... Quand on est costaud, la mer ou l'eau, c'est vachement bien parce qu'on se sent léger. Et je suis, malgré ce qu'on peut penser, un assez bon nageur. Et un jour, on me propose de partir de la plage en Corse, de Cargese, de partir juste avec masque, tuba, palme, et de partir. Et je souffre d'un problème, j'ai l'ivresse des mers, j'ai l'ivresse des profondeurs. Quand je plonge, et que la mer a l'air magnifique, c'est un miroir, et qu'on voit des poissons, on va au fond, on nage longtemps, et j'ai nagé très longtemps. Très, très longtemps.
Et en apnée.
En apnée. Je remontais, j'allais au fond, je suivais les poissons. Et à un moment, je me retrouve très, très loin de la plage. On nage en groupe hein, dans ces moments-là. Très, très loin de la plage. Et je me rends compte que ça fait peut-être deux heures et demie qu'on nage. Et qu'il faut peut-être deux heures et demie pour entrer. Et je dis ça sans exagérer. Et j'appelle le chef de groupe et je lui dis, là, je crois que je ne pourrai pas rentrer. Donc, il y a un peu de panique. Et je vois des rochers un peu plus loin qui me semblaient un peu plus près. Je suis rentré par les rochers. Donc, voilà, je faisais un peu la planche, etc. Je suis rentré le soir, j'étais extrêmement fatigué, je me couche et je rêve là, évidemment, que je me noie. Et je me suis dit, tu as fait une énorme bêtise, Eric. Énorme. C'est que tu ne t'es pas rendu compte de tes capacités. J'étais avec des meilleurs nageurs que moi, nettement. Et ça a été la plus grande peur, j'avoue, de ma vie. Et quelque part, je me suis dit, au moins, voilà, j'ai été doucement, la mer était... Mais ça a été... je ne le referai plus. Maintenant, je sais qu'il faut faire attention avec la mer et avec sa beauté.
Sa beauté, parce qu'on peut être attiré. Alors, bien sûr, je sais que tu es un passionné de différentes belles choses. Et dans tes souvenirs comme ça de voyages... aussi bien mer que fleuve, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter qui t'a subjugué et...
J'ai fait énormément de croisières. J'ai, parmi mes amis, un armateur. Donc, grâce à lui, on se connaît depuis longtemps. J'ai été témoin à son mariage. Voilà, grâce à lui, j'ai pu effectivement... et grâce à ses bateaux et grâce à sa compagnie, naviguer sur pas mal de fleuves du monde. Mais peut-être ma plus belle croisière, elle est sur un fleuve, effectivement. On y fait des belles croisières. Mais la remontée du Mekong, d'Ho Chi Minh, en passant par Phnom Penh jusqu'au Laos, ça reste un souvenir indélébile parce que les paysages sont absolument magnifiques. Se réveiller avec des couchers de soleil sur des plaines luxuriantes du Vietnam ou du Cambodge, ce sont des souvenirs qui sont absolument inoubliables.
Alors, je ferai une petite précision, Ho Chi Minh qui était Saigon, parce qu'on remonte...
Pardon.
Voilà.
Saigon.
Saigon, parce que c'est par le plus pour savoir...
Et en fait, c'est bizarre parce que je crois que je suis venu aussi à la mer avec mes lectures. Et j'ai une admiration sans borne pour Marguerite Duras. Et quand j'étais plus jeune, évidemment, comme beaucoup, j'ai lu L'Amant, qui reste pour moi un de mes livres fétiches. Et puis ensuite, j'ai découvert comme ça Marguerite Duras. Et j'en ai profité, évidemment, sur ce bateau pour aller à Sadec, pour aller voir la maison de Marguerite Duras. Pour moi, ça reste un des plus beaux voyages, voilà, parce qu'il m'a beaucoup marqué.
Quand on navigue sur le fleuve, c'est un peu différent, parce que nous avons en référence à la terre omnipermanent par rapport aux berges. Comment tu as trouvé les berges du Mekong ? Très éloignées, comme le Missouri ou comme le Rhin ?
En fait, elles sont très changeantes. On commence par un delta qui est immense. Quand on est à Saigon, c'est immense. C'est une mer.
C'est ça que les gens doivent le savoir, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais c'est une mer.
C'est une mer. C'est un truc totalement incroyable. Et puis... qui remue du sable, c'est un fleuve sombre, avec beaucoup de circulation finalement, voilà. Et puis plus on remonte, plus le cours d'eau se rétrécit. Quand on arrive avant Phnom Penh, il y a un énorme lac, j'ai oublié son nom, mais qui se forme, où il y a des crocodiles. Enfin, il est très changeant. Il y a des endroits où, je me souviens, on avait du mal à passer parce que les arbres étaient tombés, que c'était pas entretenu, il y avait une végétation dense, le fond, c'était difficile pour le bateau de trouver son chemin. On avait besoin de gens devant nous qui nous fassent un peu la place et qui poussent les éléments naturels qui venaient... exactement, qui pouvaient contraindre le bateau à arrêter. Non, c'était merveilleux. J'ai une autre sur le Guadalquivir, en Espagne. Un moment, puisque tu parles de berges, quand tu es, par exemple, sur le Guadalquivir et que tu circules sur ce Guadalquivir et que tu vois les taureaux sauvages ou les chevaux sauvages autour de toi, c'est aussi des paysages qui sont absolument magnifiques. Et quand tu arrives sur la mer, ce Guadalquivir qui est bleu, et que tout d'un coup se mélange à la mer, ça te fait une sorte de mélange. Non, c'est l'inverse. Il est brun et puis tout d'un coup
bleu.
La mer azur qui arrive, etc. Ça te donne une couleur magnifique.
Ça se distille et tout.
C'est sont des souvenirs.
Alors ton deuxième titre, ça me fait très plaisir que tu l'aies choisi.
Oui.
Parce que c'est une très belle référence.
Ah, c'est une vieille chanson de 1943. C'est La mer de Charles Trenet.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs.
Bon, la mer, ça, tout de suite, hein, ça bascule.
Elle est belle, cette chanson.
Elle est belle. Alors, je sais que t'es normand, Eric, peut-être des Vikings. Mais avant de rentrer dans cette... Non, on a choisi ce prénom, je sais que c'est... Je voudrais quand même que tu reviennes sur le Mekong. Aucune écluse, aucun barrage. C'est un fleuve libre.
Ah, tout à fait, oui.
Voilà, c'est à préciser parce que c'est rare, les fleuves libres.
C'est
voilà.
Un fleuve libre.
C'est un fleuve libre. Alors, la Normandie.
Bah, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson de... Cette chanson de la mer de Trenet, parce qu'en fait, je trouve qu'il décrit parfaitement la vision que j'avais quand je regardais la mer en Normandie. Donc moi, je suis un homme de voyage, mes parents ne sont pas restés beaucoup en place, lyonnais d'origine, et puis j'ai passé toute mon enfance, en tout cas une bonne partie de mon enfance, avec une maman espagnole, je l'ai dit, mais une bonne partie de mon enfance en Normandie, près de la mer. La mer, elle est pour moi, c'est ce qui me manque le plus en Alsace. On a tout, mais on n'a pas la mer. Et pour la petite anecdote, je voudrais te dire que chaque année, il faut que je voie la mer. Il faut que j'y reste. Je parlais tout à l'heure, on est des familles de prolos, nous. Donc, on n'allait pas à la neige. La neige, c'était super cher, c'était même pas envisageable. Et pourtant, à l'époque, j'étais à Lyon et la montagne était à côté, mais c'était trop cher. Enfin bon, on ne louait pas les... Et donc, en fait, les vacances de prolo, c'était la mer. Hein. Et j'ai toujours eu cette relation... J'ai toujours eu cette relation, moi, avec la mer, avec l'eau, qui me rappelle mes souvenirs d'enfance, comme une Madeleine de Proust. Et j'ai besoin de cet attachement à la mer. La mer, elle me manque. Chaque fois que je me déplace, y compris pour faire des reportages, si la mer est à côté, je peux vous assurer qu'il fasse 7 degrés, 8 degrés, qu'elle soit à 4. Je remonte mon jean, j'enlève mes chaussettes et je mets les pieds dans la mer.
C'est beau. Alors, les fleuves, tu as une relation aussi par rapport aux fleuves, parce que tu sais qu'en Alsace, nous avons la chance d'avoir
le Rhin,
mais aussi de très belles rivières.
Tout à fait.
Et
J'habite Brumath, hein. Il y a la Zorn, elle passe devant chez moi. Hein.
La Zorn, c'est beau la Zorn.
C'est beau, c'est très beau la Zorn.
Parce que c'est des rivières qu'on ne connaît pas bien. On connaît l'île, on connaît la Modère, mais la Zorn, c'est une très très belle rivière.
Elle est magnifique, la Zorn. Et puis, son mot, la Zorn, c'est des barbares qui l'ont appelé comme ça. Hein, et ça veut dire tortueux, fort. Qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est ça, la Zorn, c'est ça que ça veut dire.
Alors, si tu parles des Canaries, parce qu'on revient sur les Canaries, c'est un de tes souhaits de... peut-être passer ta retraite, qui est dans quelques années.
J'adorerais. Ouais, j'ai encore un peu le temps, mais j'ai besoin de cet horizon que nous propose la mer. Alors, souvent, quand on est sur une petite île perdue au milieu de l'Atlantique, les gens se disent enfermés. Moi, c'est l'inverse. Je regarde la mer et je me dis c'est une invitation au voyage, que tout est possible.
Alors la relation des gens là-bas, ce sont des gens qui vivent dans les éléments, qui savent que c'est très dur les éléments, parce que...
En plus c'est volcanique. Donc
c'est volcanique, voilà. Il y a le soleil, mais il y a le vent surtout, parce que tout le monde oublie qu'il y a le vent, et le vent c'est terrible, parce que c'est usant, tu le sais. Toi.
Les villes sont construites de toute façon protégées derrière des montagnes, du vent.
Du vent. Hein, c'est... Quelle est la mentalité de ces gens-là? Accueillants, réservés comme les Corses?
Ce sont des insulaires.
Insulaires. Ouais.
Je connais bien la Corse aussi. Voilà, c'est une île que je... Et moi, je maîtrise tout à fait, je crois, les caractères de ces insulaires qui sont venteux.
Ah, c'est joli, ça.
qui sont venteux comme qui sont venteux et bah comme on en parlait tout à l'heure sur la maîtrise de son voilier, bah il faut maîtriser les gens venteux et à partir du moment où on a mis sa voile du bon côté, bah ça avance tout seul.
Voilà. Et bah alors on a avancé, tu t'imagines, ça y est, c'est presque on va arriver au port. Je te remercie.
Sur quel port ?
Écoute, alors on va faire très simple, on va faire Draguignan.
C'est pas mal, Draguignan. Mais moi, je te propose de nous arrêter au port de Saint-Tropez, parce qu'on a passé un bon moment. Ouais. Et là, je vois...
Bon, allez, hein, on y va ?
Allez, on va...
On va chez Sénéché. Putain, j'espère que tu payes.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier, martelé au rythme d'un moteur régulier. Un bruit répétitif aux effluves de gasoil.